Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits. Nous allons parler d'un conflit chaud, à savoir les combats qui ont lieu actuellement en Artsakh entre l'Azerbaïdjan et la République autonome de l'Artsakh, des combats qui se déroulent depuis le dimanche 27 septembre et dont on voit aujourd'hui un peu mieux le profil se dessiner. Cette émission est enregistrée le 1er octobre. C'est important parce que, évidemment, selon le moment où vous l'écouterez, la situation aura évolué. Et ce que nous présentons aujourd'hui, c'est l'état de ce conflit le 1er octobre 2020. Pour parler de ce conflit en Artsakh ou en Haut-Karabakh, comme on dit davantage en France, je reçois Ovanès Gavorkian. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes le représentant en France du Haut-Karabakh. Vous avions déjà reçu à Conflit pour une émission historique justement sur ce conflit qui a été donc qui dure depuis au moins 1991 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Je renvoie donc nos auditeurs à cette émission qu'ils peuvent retrouver sur le site internet de Conflit, et ainsi ils auront la dimension historique du conflit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la situation telle qu'elle est en cette fin septembre, début octobre 2020, donc des combats qui ont commencé le dimanche 27 septembre avec un bombardement de lignes de front. Alors il y avait déjà eu des affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au mois de juillet, mais là c'est pas la même zone qui est concernée, c'est davantage la zone qui est entre le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan.
Exactement. Depuis le 27 septembre, donc nous sommes le cinquième jour aujourd'hui, l'Azerbaïdjan a lancé une vaste offensive contre le Haut-Karabakh ou l'Artsakh, comme vous l'avez rappelé, et cela dure depuis cinq jours. L'offensive est essentiellement aérienne, avec de l'artillerie, des hélicoptères, des drones, de l'aviation qui sont utilisés à la fois contre les militaires qui défendent la frontière, la ligne de front, mais aussi contre la population civile. Hélas, aujourd'hui même, je viens d'apprendre un bombardement d'une ville qui se trouve à 30 km de la ligne de front et dont le nom est Martouni. L'Azerbaïdjan a bombardé il y a quelques heures cette ville. Nous avons 4 morts et 11 blessés. Parmi 11 blessés, il y a des journalistes et 2 journalistes du journal Le Monde qui se trouvent aujourd'hui dans un hôpital de Stepanakert. J'espère de tout cœur qu'ils seront rétablis très rapidement.
Quel est l'état de la ligne de front aujourd'hui ? Est-ce que les troupes azéries sont entrées dans l'Artsakh ou est-ce que pour l'instant c'est encore à la frontière ?
Essentiellement, c'est encore à la frontière. Naturellement, il y a des endroits où les Azerbaïdjanais ont avancé leurs troupes vers le territoire du Haut-Karabakh. C'est une situation qui évolue quasiment quotidiennement. Il y a des avancées, il y a aussi parfois les contre-avancées. En tout cas, les Azerbaïdjanais sont obligés de reculer. Une fois encore, c'est une situation de guerre où ces avancées et puis le recul sont présents, une situation en permanence en évolution.
Alors, vous avez mentionné l'usage dans ces combats d'avions et de drones. Or, ce que l'on constate, c'est qu'une partie de ce matériel militaire n'est pas d'Azerbaïdjan, mais provient de la Turquie. Notamment, les avions qui sont employés sont des avions dont l'armée de l'air d'Azerbaïdjan ne possède aucun modèle. Et d'ailleurs, c'est une des grandes nouveautés de ce conflit, c'est que ce n'est pas une opposition Arménie-Azerbaïdjan ou Haut-Karabakh-Azerbaïdjan comme on l'avait depuis 1991. Là, on a une arrivée et une intervention de la Turquie de façon directe. Et on a l'impression, mais on va y revenir, que c'est plus que l'Azerbaïdjan est plus un prétexte pour la Turquie à ce conflit que simplement une opposition, comme on l'avait auparavant, entre les deux pays frontaliers. Mais je voudrais revenir justement sur le matériel qui est utilisé et le fait que c'est du matériel qui est essentiellement d'origine turque.
Oui, je vous le confirme. Vous la rappeliez tout à l'heure qu'au mois de juillet, il y a eu un affrontement qui n'a pas duré longtemps, qui a duré 2 jours, mais qui s'est déroulé entre la République d'Arménie et la République azerbaïdjanaise cette fois-ci. C'était au mois de juillet, au mois d'août, pour répondre à cet affrontement où l'Arménie a montré une certaine supériorité militaire face à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan et la Turquie, au mois d'août dernier, ont organisé des exercices militaires de très grande envergure sur le sol azerbaïdjanais, où sont participés et les armées des deux pays, mais aussi le matériel militaire que les deux armées possédaient. Donc les soldats, les militaires turcs sont rentrés depuis le mois d'août chez eux, en Turquie, mais une grande partie du matériel turc est resté sur le territoire azerbaïdjanais, et c'est aujourd'hui ce matériel turc qui est utilisé par l'armée azerbaïdjanaise.
Alors notamment les drones, on sait que les Turcs ont utilisé ce matériel, notamment en Libye, avec succès d'ailleurs, parce qu'ils ont repoussé les troupes du maréchal Haftar. Et donc c'est aujourd'hui ce type de drone qui est employé dans ce conflit.
Exactement, de fabrication turque. Et d'ailleurs, le fabricant lui-même a posté sur des réseaux sociaux le fait qu'aujourd'hui l'armée azerbaïdjanaise utilisait ces drones de fabrication turque. Mais il n'y a pas seulement les drones, il y a aussi l'aviation, il y a des avions F-16 qui sont utilisés par l'armée azerbaïdjanaise, d'une part pour, il y a 2 jours, abattre un avion arménien, mais aussi bombarder d'une manière régulière les positions de la défense karabakhiote.
Quand on étudie les sites internet qui nous montrent les lignes d'aviation, et on peut suivre comme ça les avions à travers le monde, on voit qu'il y a plusieurs avions qui ont décollé de Libye et qui ont été directement dans la zone de conflit, qui sont, comme le montrent les radars d'aéronaval, qui sont des avions d'origine turque. Donc ça veut dire que les Turcs ont replié une partie de leur armée qui était présente en Libye, ils l'ont repliée sur ce nouveau front.
Je vous le confirme, la Turquie, d'une manière non seulement verbal, c'était le cas jusqu'à maintenant. Et la singularité, si on peut le dire, de cette offensive est dans le fait que la Turquie, d'une manière très concrète et très directe, est entrée dans la guerre à la fois contre l'Arménie et contre le Haut-Karabakh, et qui soutient d'une manière très très théâtrale, comme d'habitude, et qui est très propre à M. Erdogan, les frères azerbaïdjanais, comme ils le disent, et contrairement à l'ensemble de la communauté internationale, la Turquie est le seul pays aujourd'hui qui encourage la guerre sur le terrain.
Il y a également l'emploi de mercenaires. On a là aussi des informations très claires sur le fait que des mercenaires qui ont servi dans les rangs de l'État islamique ont été rapatriés sur les zones de ce conflit pour servir contre le Haut-Karabakh.
Ça aussi, je vous le confirme, c'était une information que nous avions il y a 2 jours, mais qui n'était pas vérifiée, qui provenait de la presse anglo-saxonne, aussi de l'agence Reuters. Mais depuis hier, et le ministère des Affaires étrangères russe, et aussi les autorités iraniennes ont confirmé ces informations, d'ailleurs en condamnant et en demandant à la fois à la Turquie mais aussi à l'Azerbaïdjan d'extraire toutes les forces extrémistes, l'Iran les a appelées terroristes, de cette zone de conflit, et naturellement ils étaient là pour combattre côté azerbaïdjanais contre les forces militaires Artsakhiot ou Karabakhiot et arménienne à la fois.
Et que recherche la Turquie alors dans ce conflit? Quels sont, d'après vous, ses objectifs?
Pour moi, j'ai une lecture plutôt simple. Vous savez, la Turquie, aujourd'hui, d'une manière assez audacieuse, mais aussi assez explicite, à une politique expansionniste qui n'est pas du tout cachée. Cette politique expansionniste, nous voyons pas seulement au Caucase du Sud, mais on voit depuis quelques jours aussi au Caucase du Sud. Et le monsieur Erdogan, qui aime beaucoup se poser ou se présenter comme le leader du monde musulman, mais aussi le leader du monde turcophone, donc a cette ambition avec l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan, c'est un pays à la fois musulman et turcophone, d'étendre ou de renforcer sa présence et son influence dans ce pays. Pas seulement dans ce pays, mais aussi dans les pays de l'Asie centrale, où il y a 4 autres pays turcophones, mais ça commence par l'Azerbaïdjan. Ça, c'est la première explication. Et la deuxième explication que nous attendons, entendons très souvent aujourd'hui concernant les agissements de M. Erdogan, qui serait dû au fait que dans cette Turquie, il y a une situation assez compliquée, économique. La monnaie turque est dévaluée, la situation économique est très difficile. Et pour pouvoir mobiliser, ou en tout cas renforcer son propre pouvoir dans la Turquie, M. Erdogan trouve ses astuces, on va dire, astuces politiques, pour mobiliser autour de lui le fibre nationaliste turc qui est assez présent en Turquie. Si c'est vrai, pour garder donc le pouvoir en Turquie, cette personne n'hésite pas à sacrifier des milliers, voire des dizaines de milliers de vies dans notre région.
Et finalement, on a l'impression que l'Azerbaïdjan n'est pas l'acteur principal. C'est un petit peu le paravent, mais que l'acteur principal, c'est la Turquie, que l'Azerbaïdjan est une sorte de faire-valoir dans ce rapport de force.
Même si je suis d'accord avec vous, l'Azerbaïdjan n'étant pas l'acteur principal, l'Azerbaïdjan reste un acteur. L'Azerbaïdjan n'est pas juste une marionnette qui est manipulée tout simplement. L'Azerbaïdjan reste un acteur, même si ce n'est pas le principal. En tout cas, son président Ilham Aliyev est conscient de ce qu'il fait et il peut ne pas le faire. Il a le choix de faire ou ne pas le faire. Et il n'est pas juste manipulé, il est dans cette entreprise sanguinaire un des acteurs.
Alors, comment, d'après vous, pourrait évoluer la situation dans les jours qui viennent? On pense évidemment à l'Iran et à la Russie qui sont des acteurs importants dans la région et qui peuvent intervenir pour permettre la résolution de ce conflit. Il y a également le groupe de Minsk, dont la France est une vice-présidente avec la Russie et les États-Unis. Là aussi, pour l'instant, ça se fait un peu attendre, puisque ça fait déjà 5 jours de conflit. Mais on peut penser que ces pays vont intervenir pour essayer de mettre un terme à l'attaque et rétablir le statu quo.
C'est l'espoir que nous avons, parce que les intérêts de toutes les puissances régionales, à part la Turquie naturellement, mais au-delà des puissances régionales, fait que j'imagine difficilement une pérennisation du conflit sur place, au vu des intérêts des grandes puissances que vous venez de rappeler. Mais l'intervention de ces grandes puissances aura pour effet, si cela s'avère vrai dans les jours qui viennent, de arrêter les combats comme vous avez dit, en tout cas les actions militaires. Cela ne voudra absolument pas dire que la solution sera trouvée à la question du Karabakh. Et si vous me permettez, la question du Karabakh est simplement la question des Arméniens du Karabakh. Il y a une question du Karabakh parce qu'il y a une population arménienne au Karabakh. De point de vue du président Aliyev, à partir du moment où il nettoiera, comme il le dit depuis ce matin, les Arméniens du Karabakh, et les Arméniens du Karabakh, c'est 97% de la population du Karabakh. Donc s'il nettoie 97% de la population du Karabakh, il n'aura plus de questions du Karabakh. Je crois que la solution du Karabakh, de la question du Karabakh, viendra si enfin on se penche sur les droits de ces 150 000 personnes, 150 000 Arméniens qui vivent au Karabakh, au-delà même des intérêts de telle ou telle puissance régionale. Ces 150 000 personnes arméniennes qui vivent aujourd'hui au Karabakh sont devenues un facteur. Deux solutions. On prend en considération leurs droits, et notamment leur droit à l'existence, ou alors ces 150 000 personnes sont massacrées et donc la question du Karabakh disparaît.
En tout cas, on voit pour l'instant que le Haut-Karabakh arrive à résister à cette attaque, ce qui montre aussi un attachement de la population à défendre son territoire et être prêt à se sacrifier, puisque depuis 5 jours, la ligne de front tient et n'a pas rompu.
Un attachement, et c'est malheureux de dire, mais une absence de choix, si vous voulez. Parce que quand il y a un combat pour l'existence, il n'y a pas de marge de manœuvre, de négociation avec l'existence. Et on existe ou on n'existe pas. On vit physiquement, on ne vit pas physiquement. Naturellement, en tant qu'individu, chacun peut faire le choix de quitter ce territoire et de se réfugier l'un à l'Europe, l'autre aux États-Unis, le troisième en Iran ou en Asie centrale ou encore en Russie, comme cela a été le cas il y a 100 ans, quand la Turquie a décidé de nettoyer son territoire de ses sujets arméniens. Le tort, probablement, que l'Azerbaïdjan ne pardonne pas aux Arméniens du Karabakh, c'est qu'ils ont décidé de résister. Et c'est la faute, l'erreur qu'il ne fallait pas qu'ils fassent. Ça, ce n'est pas pardonné par Aliyev. Ils ont décidé cette fois-ci de ne pas se laisser génocider, de ne pas se laisser massacrer. On va voir si nous arrivons. Pour l'instant, comme vous avez dit, nos militaires résistent.
Merci beaucoup, Vanessa Gavorkian, d'avoir évoqué comme ça la situation de ce conflit qui est en cours. Je rappelle que l'émission est enregistrée le 1er octobre et nous espérons évidemment que les combats prennent fin le plus tôt possible. Nous allons continuer à suivre la situation à conflit et puis à vous tenir informés de cette situation. Le prochain dossier de conflit à apparaître début novembre sera consacré à la Turquie et à Erdogan, où donc évidemment cette question est un des éléments traités dans le dossier. Il y en a beaucoup d'autres. Et puis je renvoie nos auditeurs à une autre émission donc où nous avons consacré sur l'histoire du Haut-Karabakh pour avoir toute la dimension historique, toutes les références étant sur le site internet de conflit. Merci pour votre fidélité. À bientôt.